Deutsche Welle, Économie et développement.
Un mélange de hip-hop, de reggae, de R&B avec un zeste de musique traditionnelle tanzanienne. Ne cherchez plus, c'est le bongo flava, un style musical qu'un entrepreneur essaie de promouvoir. Et puis on parlera aussi des entreprises africaines qui grignotent des parts de marché aux multinationales américaines ou encore européennes sur le continent. Vous êtes bien à l'écoute du magazine Économie et Développement, Claire-Marie Cosman au micro, bienvenue à toutes et à tous. Nous partons en Tanzanie où l'entrepreneur Joseph Kusaga vient au secours des jeunes talents tout en promouvant le bongo flava, la musique du pays. C'est donc un genre musical tanzanien qui a vu le jour dans les années 90. Mais en raison du manque de plateforme pour faire sa promotion, cette musique est en voie de disparition. Et c'est pour la faire vivre de génération en génération que les jeunes sont souvent invités à des concerts organisés par cet entrepreneur. C'est Kosi Vitiasu qui nous raconte cette aventure.
Baraka Da Prince est bien connu dans son quartier de Dar es Salaam. C'est un chanteur de bongo flava et un auteur-compositeur. À Dar es Salaam, tout le monde aime sa musique et chanter avec lui.
Lorsque nous avons publié la chanson, nous ne pensions pas que cela pourrait être aussi populaire. Nous l'avons enregistrée et fait une vidéo. Heureusement, de nombreux Tanzaniens ont aimé la chanson et l'ont rendue célèbre.
Aujourd'hui âgé de 22 ans, Baraka a toujours rêvé de devenir un chanteur célèbre. Mais son père ne voulait pas qu'il fasse de la musique. C'était là son plus grand défi. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer sur cette voie. Il a déménagé à Dar es Salaam, à environ 1000 km de sa ville natale, Mwanza, où il a enregistré cette chanson, Nawe Siachani, ce qui signifie « Je ne vais pas vous lâcher ». Et le clip a rencontré beaucoup de succès. Classée dans le top 10, la vidéo a été diffusée par différentes chaînes de télévision en Tanzanie et en Afrique de l'Est. Néanmoins, chanter seul ne suffit pas souvent pour joindre les deux bouts. Voilà pourquoi des artistes comme Baraka sont ravis quand ils sont découverts par Joseph Kusaga. Pendant près de 3 décennies, le manager de la très populaire station radio Cloud FM a fait la promotion de jeunes musiciens talentueux.
Il y a beaucoup de talents, mais les questions financières constituent pour eux un défi. Obtenir le temps d'antenne en ce moment, je pense que cela coûte autour de 300 ou 400 000 shillings tanzaniens, et ce n'est pas facile pour eux. C'est beaucoup d'argent.
300 000 shillings tanzaniens font environ 150 euros. En donnant aux artistes du temps d'antenne gratuit sur sa radio et à la télévision, Joseph Kusaga a fait du bongo flava, un genre de musique très populaire en Afrique de l'Est.
Avant, il était très difficile pour les gens de soutenir le bongo. Parce que je me souviens, la plupart des gens disaient que la musique bongo, c'est du rap. Et que le rap, c'est pour les hooligans. Mais maintenant, les gens prennent sa musique très au sérieux.
Le bongo flava a maintenant conquis le cœur de la population tanzanienne. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le jeune artiste Baraka Da Prince, avec l'aide de Joseph Kusaga, est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire de ce rêve une réalité.
Mon plus grand rêve est de faire de la Tanzanie un pays connu internationalement à travers la musique.
Bien, souhaitons que ce rêve se réalise et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver le reportage axé sur l'économie et le développement en avant-première dans l'Afrique qui bouge. C'est dans Info Matin, le mardi, sur la Deutsche Welle. Yo, ha, nami wala, utoni taka, utoni pata kata kata Kamwe sito beba, mabaksi ya drugs To jaribu, nikamaraji adeba, tunaboko pega peta Pamoja na kuwa itare watoto, wadogo, wanaochipukia Katika hii dunia, majumbani, mashuleni, uraiani Kote kote kwa undani, si utani, usisitize moja mbili Tue wakali, karama karama pili pili. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Économie et Développement. Les entreprises africaines gagnent des parts de marché face aux géants internationaux. C'est ce que souligne une étude toute récente du cabinet de conseil Boston Consulting Group. Patrick Dupoux, son auteur, basé à Casablanca, nous livre quelques explications.
Ce qu'on constate, c'est beaucoup de multinationales, ou bien qui viennent de s'implanter récemment, ou bien qui étaient déjà, pour le coup, en Afrique depuis quelques années. En même temps que le marché devient plus intéressant, qu'il se développe, il constate qu'il y a aussi des acteurs africains qui commencent à être de réels concurrents. Quand on interroge les multinationales aujourd'hui sur quelle est leur vraie concurrence en Afrique, ils vous disent ce sont les acteurs africains, les acteurs locaux, plus que les autres multinationales.
Et c'est dans quel secteur particulièrement ?
Je dirais quasiment tous les secteurs dont le business et essentiellement local. C'est par exemple tout ce qui sont les biens de grande consommation. Le food, la nourriture, le textile. C'est aussi, par exemple, les matériaux de construction. Le ciment, d'autres matériaux de construction qui sont en général où il y a une usine implantée ou des usines implantées dans chacun des pays et puis ensuite des chaînes de distribution. C'est par exemple le secteur des télécoms, les opérateurs télécoms, la banque, l'assurance, la pharmacie. Donc ça, ce sont des business multilocaux où vous avez des usines un peu partout. Dans tous ces business-là, tous ceux que je viens de citer, aujourd'hui, il y a des acteurs africains qui sont rentrés en concurrence avec les multinationales et qui parfois réussissent mieux que les multinationales.
Et notamment parce qu'ils sont proches, on va dire, de leurs consommateurs et c'est aussi parce qu'ils connaissent peut-être mieux le terrain que des multinationales originaires des États-Unis ou d'Europe.
Exactement. On a identifié un certain nombre de raisons qui font que ces acteurs locaux, ceux que nous appelons les lions africains, sont parfois meilleurs et réussissent mieux que les multinationales. La première raison, c'est le focus, la focalisation. C'est qu'eux, ils sont uniquement en Afrique. Donc ils mettent toute leur énergie, tous leurs investissements en Afrique et c'est réussir en Afrique ou mourir. De l'autre côté, il y a des multinationales qui, eux, ont des projets de développement en Asie, aux États-Unis. Et donc finalement, l'Afrique est parfois dépriorisée. Parfois, ils s'intéressent, parfois, ils ne s'y intéressent pas. Donc entre quelqu'un où c'est réussir ou mourir et quelqu'un qui a d'autres options, forcément le premier en général est plus audacieux, plus rapide, plus réactif sur le continent africain. La deuxième raison, c'est qu'effectivement ils sont beaucoup plus proches du terrain, c'est ce qu'on appelle le field. Ils connaissent mieux le terrain, ils connaissent l'écosystème, les fournisseurs, les consommateurs, alors que des multinationales parfois envoient des expatriés qui sont là pour 3 ans, alors il leur faut à peu près 1 an et demi, c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs, 18 mois pour comprendre le marché, savoir ce qui se passe, puis les 6 derniers mois pour chercher le job d'après, ça vous laisse 1 an, vous êtes efficace. Donc quand vous avez quelqu'un qui est installé depuis 10 ans, forcément on comprend que vous pouvez être parfois moins efficace. La troisième raison qu'on appelle les facts, c'est que souvent ils ont des données de marché qui sont fausses, parce que les données de marché souvent en Afrique, elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas fiables, on est obligé de les reconstituer, donc entre quelqu'un qui est basé en Afrique depuis 50 ans et quelqu'un qui s'installe récemment, on comprend que le premier, souvent, a une meilleure compréhension du marché. Et puis le dernier point, c'est que ces acteurs africains sont plus flexibles, plus agiles. Ils prennent des décisions d'investissement rapides. Ils sont prêts à s'adapter à la réalité locale, là où des multinationales ont des comités basés à Paris, à New York, à Londres, et où il y a des process souvent assez lourds. Donc il y a des avantages concurrentiel très fort et les lions africains, c'est pour ça qu'ils réussissent bien.
Vous parlez notamment du Nigeria dans votre étude, avec des entreprises florissantes comme Dangote. On sait aussi que les pays pétroliers en Afrique souffrent énormément en ce moment. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Est-ce que ça peut aussi peut-être inciter les gouvernements à davantage s'engager vers d'autres secteurs que le pétrole et peut-être à donner un coup de main aux entreprises africaines?
À court terme, effectivement, plusieurs pays pétroliers comme le Nigeria, comme l'Angola, vont souffrir. Cette année va être difficile, l'année prochaine peut-être encore plus difficile, parce que plus encore que le poids du pétrole ou du gaz dans le PIB, ce qui leur fait très mal, c'est que les revenus pétroliers, c'est souvent 80% des revenus du budget de l'État, et donc ils vont avoir un État qui va être dans une situation extrêmement compliquée, avec un risque de contrôle d'échange, de refermeture de l'économie. Donc ça, c'est, je dirais, la mauvaise nouvelle et qui fait d'ailleurs que la croissance du continent africain en 2015-2016 sera plus faible qu'elle ne l'a été depuis 15 ans, de l'ordre de 3,5%, peut-être 4, alors que c'était plutôt du 5-6%. Bon. Ensuite, ce qu'on pense, c'est que ça a aussi un côté positif, parce qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de pays qui sont moins dépendants de la rente pétrolière continuent à réussir très bien. Je pense à la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, il y a un certain nombre de pays qui sont en très forte croissance. Et puis, pour les pays pétroliers, je pense notamment à un pays comme le Nigeria, qui représente quand même un tiers de l'économie de l'Afrique subsaharienne, c'est le moment, effectivement, de diversifier son économie, ce que le Nigeria a commencé à faire depuis 15 ans, mais sur lequel il faut vraiment accélérer en soutenant les entreprises dans les secteurs des services, dans les secteurs de l'industrie, dans l'agriculture, énorme potentiel de développement de l'activité du PIB agricole en Afrique, et donc de développer une économie beaucoup plus résiliente et de sortir un peu de cette économie de matières premières, d'industrie extractive, ce que nous on appelle l'économie de comptoir.
C'était Patrick Dupoux du cabinet de conseil Boston Consulting Group. Et n'oubliez pas, pour réentendre ce magazine, rendez-vous sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.